vu le monde qu'il y a. En effet, donc voici la prochaine conférence sur un sujet d'actualité avec une star nationale et même internationale. J'ai vu qu'on parlait de toi sur un blog chilien.
J'ai pas réussi à lire Jérémy Zimmerman, mais après, je pense que c'était bien, il parlait
de
Pierre Côté.
Ça va.
Donc, à toi la parole, Jérémy.
Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de voir que le sujet passionne les foules à ce point. Avant de commencer, juste comme ça, à titre purement informatif, qui ici n'a pas entendu parler de la Dopi ? D'accord. Qui pense que c'est une solution proportionnée et pédagogique à un problème crucial ? D'accord. Bon. Ok, donc on prêche un petit peu des convertis ici, mais ça tombe bien, on va pas s'ennuyer à répéter ce qu'on a dit encore et toujours dans la presse au sujet de la loi Hadopi, que c'est une loi inapplicable, inefficace, dangereuse, tout ça. Je pense que vous avez tous entendu ça en boucle et que vous êtes déjà tous persuadés de ça. Mais on va pouvoir discuter un petit peu ensemble de ce qu'on appelle nous la quadrature du net. Cette espèce de problème insoluble, comme l'a été la quadrature du cercle pendant 3500 ans, avant que l'on s'aperçoive qu'il n'y avait pas de solution à ce problème mathématique. La façon dont le pouvoir politique est en train d'essayer de réguler Internet et les motifs de répétition que l'on voit dans les différents projets que l'on combat au jour le jour. En partant évidemment de la Dopi. Donc, je ne sais pas si vous avez eu cette lecture-là sur la Dopi, mais le but principal, après les gesticulations, après les histoires d'artistes, de cinéastes, de trucs et de machins, le but de la Dopi, c'est de contourner l'autorité judiciaire. C'est de créer ce machin administratif un peu bizarre, et c'est de permettre de déroger aux règles qui sont celles de l'état de droit, qui sont celles de la protection de tout un chacun, des citoyens, le respect des libertés individuelles. Le but est de déroger à ça, dans une espèce de souci supposé d'efficacité, pour répondre à un problème qui n'en est pas un. Et donc Internet, dans tout ça, quelque part, c'est le bouc émissaire d'une politique qui déroge aux libertés fondamentales, qui va s'asseoir sur le principe de la séparation des pouvoirs, qui va s'asseoir sur le respect d'une procédure contradictoire, sur le respect d'un procès équitable. Il n'est pas nécessaire de chercher la rationalité là-dedans. C'est quelque chose que j'aimerais vous dire avant tout pour vous rassurer, parce que on se rend compte que le débat est super passionné sur Internet, sur tous les blogs, sur tous les forums, sur tous les espaces d'expression qu'il y a sur Internet. On a vu des gens parler d'Hadopi, des gens aller hyper profondément dans les détails du texte. J'ai discuté avec quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit « Ah, vous savez, j'ai lu le rapport de Muriel Marlan-Militello, j'ai vu le pré-projet de loi, j'ai lu ceci, j'ai lu cela, et j'en ai parlé. » Et donc c'était ça l'objectif de la quadrature du net, initialement. Et ce que j'aimerais vous dire avant tout, c'est qu'il ne faut surtout pas se décourager. Il ne faut surtout pas s'arracher les cheveux en se disant « Mais qu'est-ce qu'ils sont cons ?» Il ne faut surtout pas paniquer en se disant « Oh là là, ça y est, la loi, elle est votée. » Surtout pas se dire qu'ils ont gagné, parce qu'en réalité, ils ont perdu. Et surtout, voilà, ne pas chercher la rationalité dans tout ça. Il y a des intérêts économiques qui sont ceux des majors qui croient vaguement que, en agitant une matraque, on va faire acheter plus. Il y a les intérêts économiques manifestes de vendeurs de sécurité, de vendeurs de logiciels de perlimpinpin, qui vont faire croire aux mêmes majors d'un côté pendant 5 ans que les DRM c'est génial et grâce à ça vous allez survivre. Et puis ensuite que les logiciels à imposer sur les ordinateurs des gens c'est génial et grâce à ça vous allez survivre. Donc d'un côté il y a ces intérêts économiques qui avancent ou qui reculent au gré des saisons, c'est même pas plus intéressant que ça. De l'autre, il y a un intérêt politique manifeste de contrôler Internet. Car Internet est en train de devenir un contre-pouvoir politique. On l'a vu à de nombreux épisodes. L'Hadopi en est un de plus. On l'a vu pendant la DATSI, où le ministre Donio de Vabre a été désintégré en plein vol et a été rayé de la carte politique suite à ce que qu'Internet tout entier lui a mis sur la figure avec son projet de loi débile. Ça s'est vu aussi avec le traité de constitution européenne, où les médias étaient verrouillés à dire que oui. Et les gens sur Internet doutaient, réfléchissaient, décortiquaient, disaient dans le doute, peut-être que non. Et puis finalement, non. Et c'est le non qui est passé. Donc là, ce coup-ci aussi, avec Hadopi, qui devait passer comme une lettre à la poste, très très vite fait, et qui voilà, s'est fait dépecer en direct live pendant de longs mois d'agonie. Il y a donc un intérêt politique qui vient rejoindre ces intérêts économiques vers plus de contrôle d'Internet. Et donc, entre les deux, entre tout ça, y a vous, il y a moi, il y a les gus dans les garages, il y a Internet. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant et qui, à mon avis, donne espoir, au-delà de tel ou tel texte, de telle ou telle gesticulation politicienne, de telle ou telle majorité, fût-elle présidentielle ou non, c'est que ce qu'on est en train de bâtir avec Internet est quelque chose qui les dépasse, et qui les dépasse complètement. On est bien au-delà de tout ce qu'ils peuvent matérialiser dans leur esprit de... Alors, Internet, c'est une espèce de grosse boîte beige qui sert à... voler des baguettes de pain, à tuer la création, ça sert pour les pédos nazis, terroristes, etc. Ce que l'on démontre par notre action, c'est que c'est voilà, ça dépasse, ça transcende tout ce qu'ils peuvent imaginer. Alors, la quadrature du net, c'est pas quelque chose de précis. Alors, je vois qu'il y a des doigts qui se lèvent. D'accord. Alors, je partais du principe... Ouais.
Tout ce que je n'ai pas perçu, c'est ce que j'ai entendu dire, finalement, c'était mauvais pour les logiciels libres, cette loi.
Donc... Ok, alors je vais répéter, parce que... Enfin, tout à l'heure, on posera les questions avec le micro, parce que des gens, apparemment, nous regardent sur Internet. Je les salue, s'ils nous voient. Donc, on me demande, effectivement, de replacer un petit peu le contexte de l'Hadopi elle-même. C'est vrai que c'était censé être le sujet de... de cette discussion. Moi, je partais du principe que tout le monde était acquis à la cause, entre guillemets, et avait suivi un petit peu les épisodes précédents. Mais c'est vrai que ça fera pas de mal de faire un petit résumé. Oui, il y a encore un doigt qui se lève là-bas. Ok. Très bien, très bien.
En fait, je vais résumer, c'est supprimer des mots, et là, on a fait un petit peu, je pense, un peu aussi. Non, je ne dis pas que je suis pas chic pour. En fait, je vais résumer, c'est intégrer un peu la signification du texte. C'est très long, c'est très chiant.
Alors, tout à fait d'accord. Là encore, je vais reformuler pour notre public sur Internet, d'être précis sur le texte. Alors, c'est quelque chose qu'on essaye de faire en permanence, à savoir d'être précis et d'avoir des références aux mots qui sont les vrais mots, et les mots du texte. Et c'est quelque chose de très important. Donc, petite parenthèse qui, en fait, n'en est pas une, pour raconter l'Hadopi en quelques minutes. Le but, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est de contourner l'autorité judiciaire en créant une autorité administrative, une haute autorité administrative, pour reprendre les mots du texte, qui est composée de 9 membres et qui va recevoir des plaintes que l'on pourrait qualifier de dénonciations en provenance d'acteurs privés qui vont surveiller le réseau à la recherche de preuves, et je mets des guillemets autour du mot preuve, d'infractions à leurs droits d'auteur. Donc, pour la faire dans l'autre sens, on a au début des acteurs privés qui sont les sociétés de gestion collective, des syndicats professionnels et des enquêteurs privés qui emploient des agents assermentés qui sont donc des gus qui ont reçu un coup de tampon au ministère de la Culture, qui ne sont pas des policiers, qui ne sont pas des magistrats, qui n'ont aucune fonction administrative, qui ont juste reçu un coup de tampon Ces bons hommes-là bossent donc dans des entreprises ou des groupements professionnels qui ont tous un lien direct avec les industries du divertissement, qui ont voire même pour certaines un intérêt économique à maximiser le nombre de ces plaintes, de ces dénonciations à la DOPI. Tout est normal. On a donc des acteurs privés qui vont se livrer à des missions de police, c'est-à-dire surveiller le réseau et constater des infractions, en tout cas ce qu'ils considèrent être des infractions, pour intenter des procédures qui aboutissent jusqu'à des sanctions. Et c'est là que le bât blesse, et je vous remercie de m'avoir recadré, parce que je suis venu un petit peu les mains dans les poches, et puis je fais un petit peu au gré du moment. Et voilà, c'est important effectivement de remettre ces choses-là à plat. On a des acteurs privés qui se livrent à des missions de police, et tout ce qu'ils vont transmettre à la DOPI, c'est des relevés d'adresses IP. Donc les adresses IP, vous connaissez ça plus ou moins ici, bande de geeks. Non, je plaisante. Les adresses IP, c'est les identifiants d'ordinateurs et de points d'accès sur le réseau Internet. Donc l'analogie la moins idiote que l'on pourrait tenter de faire, ce serait une adresse, voilà, comme une adresse postale. Mais toutes les analogies avec le monde matériel sont vouées à être foireuses. Donc, une adresse IP, c'est ni plus ni moins qu'une série de chiffres qui eux-mêmes se résument à des 0 et des 1. C'est des séries de 0 et de 1 qui sont écrits dans des fichiers texte. Vous savez, comme moi, ce qu'est un fichier texte, ce qu'est un fichier. Vous savez comment ça s'efface, comment ça se perd, comment ça se modifie, comment ça se... C'est toujours une catastrophe quand ça se perd. Et donc, ces fichiers, ces relevés d'adresses IP immatérielles qui vont servir à l'alpha et l'oméga de la DOPI. Du début jusqu'à la fin de la procédure de la DOPI, de la dénonciation initiale jusqu'à la sanction, il n'y a aucun autre élément que ces adresses IP qui va intervenir dans le dispositif. Et là, on est en présence d'un énième point majeur bloquant du point de vue du respect de toutes les règles qui sont celles de la justice et qui sont celles de la séparation des pouvoirs et qui sont celles d'un état de droit un petit peu sain, un petit peu protecteur des citoyens, c'est que outre les missions de police privée, outre la justice administrative qui contourne l'autorité judiciaire, on a des procédures qui sont tout entières basées sur des preuves immatérielles qui sont invérifiables et contre lesquels il est impossible de s'opposer. Donc des preuves que l'on pourrait qualifier par un mot, monsieur, je vous l'accorde, qui n'est pas précis, mais qui serait bidon. On a des preuves bidon qui, du début à la fin, vont servir à la DOPI. Donc, on en est là. Cette DOPI et ces bons hommes se saisissent d'adresses IP qui lui ont été transmises par ses agents assermentés, tamponnés par le successeur de Madame Christine Albanel. Non, mais c'est pas moi qui le dis, hein. Il va y avoir un remaniement, elle est dans la prochaine charrette. Donc la DOPI va se saisir de ses adresses IP, a le pouvoir exorbitant de pouvoir tenter de vérifier ses adresses IP en accédant à tous les documents possibles et imaginables qui sont stockés par les fournisseurs d'accès relatifs aux connexions de leurs abonnés. Donc ça veut dire tous les sites que vous avez consultés, à qui vous avez envoyé des emails, tout ce que le fournisseur d'accès stocke sur vous, et ce qu'il stocke sur vous, c'est l'objet d'un décret, de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Donc c'est un décret, c'est une procédure administrative, c'est pas une loi qui est votée par le Parlement. Et donc n'importe quand, il peut y avoir un nouveau décret qui va modifier le périmètre de ce que les fournisseurs d'accès doivent stocker. Un beau jour, on va peut-être dire « Ah ben maintenant, le contenu des emails échangés doit aussi être stocké pour être rendu accessible pour les services de police dans des missions qui sont tout à fait légitimes quand elles sont encadrées par l'autorité judiciaire. » Mais là, ce n'est pas le cas. On a donc cette autorité administrative, la DOPI, qui peut, si elle le souhaite, accéder à toutes ces données personnelles stockées par les fournisseurs d'accès pour éventuellement tenter de vérifier la dénonciation de ces acteurs privés. Alors, les chiffres annoncés par Albanel sont complètement fantaisistes, de 10 000 emails par jour, 1 000 déconnexions. Le tout est là pour faire peur. Et je vais y revenir parce que c'est ça le point central, en fait, de la DOPI. Son dispositif, le mécanisme même, on pourrait se permettre de dire qu'on s'en fiche. Il est particulièrement emblématique, particulièrement révélateur de jusqu'où ces andouilles sont prêtes à aller. Donc c'est intéressant, c'est un cas d'école. L'Adopi, c'est d'ores et déjà une espèce de monstre difforme dans un bocal de formol qu'on va mettre bien en évidence sur l'étagère pour que les générations futures puissent voir voilà, ce qu'ils sont capables de faire dans l'absurdité. Donc si elle veut, l'Adopi peut, à raison de 10 000 emails par jour, de 10 000 dénonciations par jour, vérifier ces données-là, mais en pratique, elle ne le fera pas. Parce que le but est de faire donc, cette espèce de justice automatisée qui n'a plus besoin littéralement des êtres humains pour être rendue. Donc l'Adopi va manifestement obéir sans vérifier aux dénonciations de ces acteurs privés. Et là je dis manifestement parce que c'est une supposition. Elle a la possibilité d'aller fouiller dans la vie privée des gens, mais c'est seulement si elle le souhaite. Et de là, un premier email sera envoyé. Le premier email, vous savez, vous lisez tous votre adresse email à toanadou.fr ou enfin, celle que votre fournisseur d'accès vous file et qui fait 10 mégaoctets et qui n'est pas pratique à consulter par rapport au Gmail et au machin comme ça que tout le monde utilise. Bref, là, vous allez recevoir un email vous disant « On a la conviction que vous avez téléchargé quelque chose et que c'est mal, mais on ne va pas vous dire quoi. Mais si vous continuez, ça va barder. » Bon, alors comme le mail en question, il ne sera pas lu... où il sera effacé, où il sera reconnu comme du spam, où il sera de toute façon au milieu d'un océan de spam, de millions de mails qui proviendront de l'Adopi, mais qui en fait vous diront de cliquer ici pour payer par carte bleue ou pour télécharger un super logiciel de sécurisation. Donc le truc doit tomber à la poubelle. Ensuite, ce sera un courrier recommandé qui arrivera peut-être. Avant une sanction, on l'a dit, on a documenté ça en long, en large et en travers, et là encore c'est limite parce qu'il y a de plus important ni de plus intéressant dans l'Adopi, sanction qui peut aller jusqu'à la déconnexion avec impossibilité de se reconnecter et obligation de payer son abonnement internet pour une période allant de 2 à 12 mois. Ha ha ha. Pourquoi je dis ha ha ha? Parce que quelque part il est important vraiment de garder à l'esprit qu'il ne faut pas paniquer. Don't panic, pour ceux qui ont lu The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. C'est vraiment le maître mot à ce stade du passage de la loi. Pour revenir un petit peu effectivement sur les aspects où le logiciel libre est directement concerné par l'Adopi et sur les aspects techniques qui sont vraiment les rouages et les entrailles de la loi avant de tenter de la dépasser un petit peu. Ils ne peuvent pas sanctionner pour une contrefaçon. Parce qu'une contrefaçon, c'est un délit pénal. Et que pour sanctionner un délit pénal, il faut qu'il y ait la matérialité de l'infraction, il faut qu'il y ait l'intentionnalité du délit, et il faut qu'il y ait un troisième principe, si un juriste parmi nous pourra peut-être nous éclairer, un spécialiste du droit pénal, personne, une fois, deux fois. Bon, tant pis. Désolé, c'était pas assez précis sur ce point. Mais voilà, il faut un certain nombre d'éléments qui sont autant de garanties d'un procès équitable et qui sont autant de protection du citoyen, du justiciable dans ce cas, face à la loi, qui sont complètement impossibles à avoir de façon automatisée et avec des preuves immatérielles et avec des bozos comme les mecs qui vont faire la collecte des adresses IP, l'ALPA, le SNEP, la SACEM et les gens comme ça. Il est absolument impossible de réunir ces conditions-là. Donc ils se sont dit « un hein ». Enfin, ils ont trouvé un crâne d'œuf particulièrement génial pour faire « un hein » à leur place. C'est Olivier Henrard, c'est le conseiller technique de Christine Albanel, qui est l'artisan charpentier à l'œuvre dans cette loi. Il s'est dit « mais c'est très simple, vu qu'on ne peut pas les condamner pour contrefaçon, on va créer cette nouvelle obligation qui en réalité était créée dans la loi d'Atsi, mais qui n'était pas définie et pour laquelle il n'y avait pas d'obligation ni de sanction. C'est une obligation administrative de sécuriser votre accès à Internet contre les utilisations frauduleuses et notamment la contrefaçon. » Et donc ça, il n'y a pas besoin de la matérialité de l'infraction pour dire que vous n'avez pas sécurisé votre accès à Internet contre les utilisations frauduleuses, notamment la contrefaçon. Donc le problème est réglé. On n'a plus besoin du niveau de protection des citoyens qui est normalement le leur lorsqu'ils sont accusés de contrefaçon. Mais on va quand même les punir pour quelque chose qui relèverait normalement de la contrefaçon grâce à cette nouvelle obligation administrative. Alors c'est un truc vraiment tordu, hein. Voilà, ça m'embête même de vous en parler tellement c'est tordu. Enfin, je veux dire, voilà, passer du temps sur des détails comme ça, alors que il y aurait des choses tellement plus intéressantes et intelligentes à faire. Bref, on va vous condamner pour ne pas avoir sécurisé votre accès à Internet contre notamment la contrefaçon. Donc ça veut dire que pour qu'il y ait sanction, il faut qu'il y ait un moyen de s'exonérer de la sanction. Il faut qu'on puisse, à un moment donné, dire « je ne vais pas être sanctionné parce que ». Donc ça veut dire qu'ils partent du principe qu'il doit y avoir un moyen efficace de sécuriser son accès à Internet contre utilisation frauduleuse, contrefaçon. Et c'est là, en fait, qu'est l'os. Et c'est là que la DOPI est, juste sur ce point-là, déjà morte et enterrée. Un point. Il le mérite. Donc, à part OpenOffice et son firewall, blague à part, attendez, excusez-moi un instant. Blague à part, en 14 mois maintenant qu'on est sur le dossier, depuis la fuite du premier, la première version du projet de loi, il y a une question qu'on a sans cesse posée aux gens du ministère de la Culture, et notamment Olivier Henrard, qui a été posé un certain nombre de fois à la ministre Albanel en hémicycle, qui est très simple, qui n'est même pas une question technique en fait, mais qui dit « Que feront ces logiciels de sécurisation ?» Et bonjour de ma part. Que feront ces logiciels de sécurisation ? Est-ce qu'ils vont protéger le réseau contre l'extérieur du réseau, comme une clé web, une clé WPA ? Au revoir. Et ces protections des réseaux Wi-Fi qui sont toutes cassées aujourd'hui, toutes cassables et qui ne tiennent pas plus de quelques minutes face à quelqu'un de déterminé. Donc est-ce que c'est une protection comme ça où on sait déjà qu'elle ne marche pas pour protéger contre ses voisins ? Est-ce que c'est une protection contre l'intérieur du réseau ? Ou est-ce que, si par exemple il y a N ordinateurs connectés derrière une boîte, est-ce que ça veut dire qu'un de ces ordinateurs-là devrait se protéger contre les autres ordinateurs ? Devrait savoir ce que font les autres ordinateurs ? En termes techniques, c'est pas possible si on utilise un bête machin à 10 euros qui s'appelle un switch. Ils sont sans doute pas allés jusque-là. Troisième possibilité, est-ce que c'est un logiciel qui vous protège contre vous-même ? Est-ce que quelqu'un au ministère de la Culture a vraiment pensé un jour qu'il va exister un logiciel comme ça, un truc qui va, vous savez, quand vous avancez la souris vers l'espèce de mule là, avec ses oreilles, ça va juste repousser la souris. Vous puissiez pas cliquer dessus. Donc quand sur Internet, il y aura un truc avec écrit .torrent, là aussi, vous allez approcher la souris, puis le lien va disparaître. Comme ça, vous ne serez pas tenté. Non, c'est pas jouable, c'est pas possible. Techniquement, ça ne peut pas exister. Et cerise sur le gâteau, c'est fondamentalement incompatible avec les principes de base du logiciel libre. Je pense que vous avez vu, il y avait une conférence sur le sujet avant, sur les principes fondamentaux du logiciel libre. On pourrait résumer ça en liberté, égalité, fraternité, d'une part, et on pourrait aussi résumer ça en disant c'est l'assurance, c'est la garantie que ce sera toujours l'utilisateur qui contrôlera la machine et pas la machine qui contrôlera l'utilisateur. C'est aussi simple que ça, le logiciel libre. Et donc, ils sont en train de nous dire « Ouais, on va faire des logiciels qui vont contrôler l'utilisateur contre l'utilisation frauduleuse de l'Internet pour pas que les pirates de Vivendi Universal, tout ça, c'est pas bien. » Ça peut pas marcher. Ça ne peut pas exister. Et ce qui est très, très amusant là-dedans, est qu'ils ont été obligés d'aller au bout de leur logique et ils ont fait ça au moment de la seconde lecture, après le rejet surprise du 9 avril. Ils se sont sans doute aperçus qu'il y avait un certain nombre de points anticonstitutionnels qui avaient été soulevés pendant les débats et qui allaient leur être fatales, et notamment celui-là. Donc ils ont été obligés de le corriger. Et c'est dans le texte qui a été voté à l'Assemblée et au Sénat qui dit que la DOPI ne pourra prendre des sanctions qu'une fois que la liste des logiciels de sécurisation aura été publiée. Et c'est logique. Parce que sinon, il y a un problème constitutionnel qu'on peut être sanctionné alors qu'on n'a pas les moyens de s'exonérer de la sanction. Et donc, la morale de cette histoire, c'est vous pouvez toujours attendre qui est la liste des nombreuses versions de Firewall, OpenOffice et autres logiciels de Perlin Pimpin, tamponnés du sceau magique de Christine Albanel, Albanel Approved. Donc vous pouvez, d'ici là, dormir sur vos deux oreilles, être tranquille et surtout ne rien changer à vos habitudes aujourd'hui. Il existe des outils techniques qui permettent de contourner la DOPI. Il en existe plein. Les plus simples, pour quiconque a un petit peu de bagage technologique, mais même pas plus que ça, en fait, hein, c'est SSH-D. Donc je vous recommande de vous documenter sur la fonction -D de SSH. Alors, bon, ça va peut-être paraître un petit peu ésotérique, voire une espèce de langue bizarre pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Vous voyez la ligne de commande, la console, cette espèce d'écran noir qui fait très peur avec des lettres blanches. Il faut taper SSH-D espace 4242 ou n'importe quel autre chiffre de votre choix. Espace -n, je crois, pour pas qu'il vous embête en vous affichant des choses. Espace mon login at l'ordinateur distant sur lequel je me connecte, point quelque chose, son adresse IP. Vous tapez là votre mot de passe et vous avez ouvert ce que l'on appelle un proxy SOX 5. Le plus performant, le plus élaboré qui soit, qui passe au travers d'une communication chiffrée où Christine Albanel, elle ne peut rien voir de ce qui se passe dedans, qui ressort là où est votre machine que vous pouvez louer, en Norvège, au Chili, en Chine, je ne vous conseille pas, mais à peu près n'importe où dans le monde. Et à partir de ce moment-là, bah, dans votre logiciel, vous allez faire préférence, réseau, proxy, 127.0.0.1, port 4242. Et de là, toutes vos communications Internet vont passer au travers de ce tunnel et ressortir voilà, au Botswana, au Pérou, en Norvège, où vous voulez. Donc ça, c'est une façon concrète aujourd'hui de contourner la DOPI. Bon, il y a l'utilisation de protocoles chiffrés, anonymisés, l'utilisation de réseaux friend-to-friend plutôt que peer-to-peer. Il y a l'utilisation des bons vieux serveurs FTP qu'on utilisait avant même que Christine Albanel ait entendu le mot Internet pour la première fois. Il y a des services packagés, clés en main, un truc qui s'appelle iPredator, un truc qui s'appelle Relax, relakks.com, un truc qui s'appelle dold.se, un autre qui s'appelle Hippoda. C'est très rigolo parce que ça fait Hadopi à l'envers, ça fait Hippoda. Et donc ils ont ouvert comme ça, c'est pas dit qu'ils y arrivent, mais ils ont lancé le début d'une réflexion sur un tel service comme ça, qui pour 5 ou 10 euros par mois, vous cliquez et puis vous contournez l'Hadopi, point barre. Bon, donc ça c'est réel aujourd'hui, c'est concret, mais quelque part c'est plus pour amuser la galerie qu'autre chose, parce que comme je vous l'ai dit, avec cette faille monumentale qui est en plein milieu sur l'histoire des outils de sécurisation, ah parce que je vous ai pas dit, excusez-moi, mais ils sont vraiment trop bêtes, c'est que le jour où ils vont sortir un décret qui donnera les spécifications techniques de ces logiciels. Donc avant même que la liste des logiciels soit un jour édictée, ils vont devoir sortir une liste de spécifications fonctionnelles qui vont dire « Messieurs les éditeurs de logiciels, faites-nous des logiciels qui empêcheront de cliquer sur la mule, et, etc. » Mais ces décrets-là, bah, on va les attaquer. Ils vont se faire attaquer devant le Conseil d'État parce qu'ils respecteront absolument pas la concurrence, et notamment la concurrence des logiciels libres, vu qu'ils seront obligés d'interdire les principes fondamentaux du logiciel libre pour exister. Donc ils ne sont pas au bout de leur peine. Et ce que je vous disais, voilà, d'ici là, don't panic, continuez à faire tout ce que vous avez à faire. Vous savez tous, au fond de vous-même, que copier, ce n'est pas voler. Vous le savez. Vous savez ce que c'est qu'un fichier, même si vous n'êtes pas des techniciens et que vous n'avez pas la notion de voilà, comment ça marche un fichier, ce que c'est qu'un fichier. Vous savez très bien que quand on recopie des 0 et des 1 d'un disque dur à une clé USB, ce n'est pas la même chose que voler une pomme. Voilà. Eh bien, continuez. Vraiment. Sérieusement. Et c'est Christine Albanel qui le dit elle-même. Et je vais vous expliquer encore une autre façon différente pourquoi ils ont déjà perdu et pourquoi tout ça est... Et d'ores et déjà dans les oubliettes de l'histoire et de la République. c'est qu'elle l'a dit plusieurs fois publiquement, je crois qu'elle l'a répété en séance. Oui, bon, en effet, on sait que ça ne va pas être forcément très, très efficace. On sait qu'il y a des gens qui vont contourner, qui vont passer au travers. Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, en réalité, c'est de changer les esprits. Elle l'a dit. Cette loi sert à changer les esprits.
Poser un cadre psychologique.
Poser un cadre psychologique. Je ne t'avais pas vu, Julien, bonjour. Poser un cadre psychologique. Merci pour la précision dans la citation. Et donc, le but de tout ce... non, on n'a pas le droit de dire merdier dans un micro. Le but de tout ce machin, on a le droit de dire machin, c'est de changer les esprits. Alors, écoutez, je vais essayer. Je vais me prendre pour Christine Albanel l'espace d'un instant. Alors, en effet, partager, c'est mal. Vous avez compris ? Vous avez compris, les enfants ? Répétez après moi. Partager, c'est mal. Non, il ne faut pas, il ne faut pas. Voilà, donc on va dire aux professeurs d'aller dans les écoles et de dire « Attention les enfants, on vous a raconté des trucs sur Jésus-Christ et tout, c'est n'importe quoi. Partager, c'est mal. » C'est très important. Il faut retenir ça. Une autre de ces stupidités, je vous l'ai dit, c'est voilà, partager, c'est voler. Copier, c'est voler. Et là, c'est drôle si on s'attarde un petit peu sur le sens des mots et sur la précision des mots. Ils ont dit... alors, ils appellent ça piratage, le partage, mais bon, c'est parce qu'ils n'ont toujours pas compris. Ça me gêne d'utiliser leurs mots, et surtout des mots de propagande aussi débiles que ça. Mais là, pour les besoins de la démonstration, vous me pardonnerez, je vais le faire. Ils disent, le piratage, c'est le pillage. Et le piratage, c'est le vol. Alors, constituons un petit peu... revoyons la scène, mais au ralenti. Ce qu'ils appellent piratage, c'est le partage. Le partage, c'est du partage de fichiers, c'est donc de l'échange de fichiers, c'est de la copie de fichiers. Sauvegardons, je mets ça de côté. Le vol, c'est écrit dans le code pénal, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. C'est très simple, le vol. Il y a 3 pommes, on en vole une, il en reste 2. Il y a mécaniquement 3 moins 1 égale 2. Et il y a mécaniquement une personne qui sera privée de cette pomme. C'est pas bien. Si vous ne l'avez pas payée et qu'elle était en vente, c'est pas bien, c'est répréhensible, c'est du vol. La copie de fichier, ce serait plutôt de la multiplication. S'il y a un fichier, là encore avec une ligne de commande un petit peu ésotérique qui fait à peu près cette taille-là, avec une fonte de 11 ou 12 pixels, enfin, voilà, avec une ligne de commande à peu près comme ça, n'importe quel geek qui est bac moins 5 en informatique va vous copier un fichier 1 million de fois. Et l'original reste. Donc on a un fichier, on le copie 1 million de fois, on a 1 million et 1 fichier. C'est de la multiplication. Donc là encore, Christine Albanel, en effet, essaye de vous faire croire que la multiplication, c'est la soustraction. C'est pas moi qui le dis. C'est Christine Albanel. Donc, alors dans le genre, la multiplication, c'est la soustraction. J'en ai d'autres. La guerre, c'est la paix. L'ignorance, c'est la force. Et c'était quoi la troisième ? L'esclavage, c'est la liberté. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas lu 1984 de George Orwell, je vous invite à le faire. Si possible dans sa version originale, qui est d'une subtilité rare. C'est bouillant d'actualité. Et donc, voilà. Tant que vous n'aurez pas compris que partager, c'est mal, et que multiplier, c'est soustraire, la dopi ne pourra pas marcher. Donc, oui. Alors, il va être temps d'ouvrir aux questions, mais je... Alors, un bémol, mais un bémol amplifié via un microphone, s'il vous plaît.
Voilà. Moi, si je veux manger une pomme, je vais chez l'épicier, j'achète ma pomme, je mange ma pomme. Si je veux manger un pain, je vais chez le boulanger, j'achète mon pain et je mange mon pain. Si je veux un MP3, je le télécharge et j'ai rien payé.
Alors,
il y a quand même quelque chose qui fait mal quelque part.
D'accord. Alors, je vous m'en voulez pas si je garde cette question comme la première question du lot de tout à l'heure. Je vais donner des éléments là-dessus. C'est une question qui est très importante, qui est celle du financement de la création. Allez, si. En gros, l'Adopi s'appelle création et Internet, mais il n'y a rien pour la création dedans. Il n'y a pas un centime de plus pour les artistes. n'y a aucune disposition relative au droit d'auteur dans la DOPI, hormis un article 10 qui dépossède les journalistes de certains droits d'auteur sur leurs publications sur Internet. Il n'y a rien pour les auteurs, les artistes, les compositeurs, les interprètes, rien de tout cela dans la DOPI. Il y a une question qui est fondamentale, qui est celle du financement de la création à l'ère numérique. On a inventé Internet, qui est cette gigantesque machine à copier. Lorsque vous regardez un site web sur votre ordinateur, il est copié sur votre écran, après avoir été copié dans la mémoire de votre carte vidéo, après avoir été copié dans la mémoire vive, après avoir été copié dans la mémoire de la carte réseau. Entre parenthèses, en chemin, il a été copié plusieurs fois dans votre Freebox, plusieurs fois dans des routeurs. Tout ça est une gigantesque machine à copier. Donc, sachant qu'on avait jusqu'à présent des artistes, des créateurs, des auteurs, des compositeurs qui étaient en partie seulement financés par la vente de copies, et qu'il y avait, jusqu'à quelque temps, des grosses industries velues qui s'enrichissaient énormément en ayant un monopole sur la production de copies. Il y a comme un bug, là. On avait des gens qui contrôlaient la copie, un peu comme les moines copistes avant l'invention de l'imprimerie. Et puis on a inventé Internet, un peu comme on a inventé l'imprimerie. Et donc le coût de réalisation des copies est devenu quasi nul. Les mecs qui se sucraient à 70% sur le prix de vente d'un CD n'ont littéralement plus... on n'a plus besoin d'eux. Voilà. Et on a effectivement des artistes, des auteurs, des compositeurs, des interprètes qui vivent en partie d'une toute petite portion des bénéfices de ces ventes de copies. Il faut juste inventer autre chose.
Si on supprime l'imprimerie, là, comme vous dites, comment on va rémunérer les auteurs ?
Eh bien, regardez comment les auteurs, les compositeurs, les interprètes sont rémunérés aujourd'hui. La vente de disques, c'est quelque chose qui est complètement minoritaire, marginal. Il y a très, 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 très peu d'artistes qui vivent exclusivement de ça. La plupart vivent en grande partie des concerts et de la scène, en grande partie des services comme les œuvres de commande, en grande partie de la vente de tout un tas d'objets et de services à valeur ajoutée relatifs à leur personne, leur groupe, leur œuvre. Ils vivent également d'un certain nombre de financements mutualisés, comme la SACEM, les droits d'auteur qui touchent via la SACEM, qui ont une part très importante du financement d'un petit nombre d'artistes, mais quand même. Et tous ces modes de financement-là dont je viens de vous parler, qui ne sont pas directement liés à la vente de copies, augmentent à mesure que la notoriété augmente et à mesure que la visibilité augmente. Et de l'autre côté, on a cette gigantesque machine qui peut servir à la visibilité qu'est Internet. Donc, on pourrait vraiment, littéralement, en discuter pendant des heures. Mais j'ai envie d'ouvrir sur l'après-Adopi et d'ouvrir sur le reste de l'Adopi. Cette question est centrale, elle est cruciale, mais l'Adopi n'est en aucun cas la réponse à cette question, voire même l'inverse. L'Adopi part du principe que les gens qui partagent des œuvres sont la cause directe de la crise que traverse l'industrie du disque aujourd'hui, alors qu'en réalité, il y a, je pourrais vous citer de tête, 5 ou 6 études différentes, une commissionnée par le ministère de l'Industrie du Canada, une par le gouvernement néerlandais au très célèbre et très sérieux institut INO, une par l'Institut de recherche français Marsouin, une par la Norwegian Business School, l'autre de, comment il s'appelait là, le type américain, bref, Burstein ou un truc comme ça, qui démontrent toutes que les gens qui partagent le plus sont ceux qui achètent le plus. Alors ils vont peut-être pas acheter des bêtes copies, la galette à 20€ avec un feuillet recto verso dans une jolie boîte de plastique comme les 300 qui s'empilent déjà et qui prennent la poussière sur l'étagère. Mais ça peut être acheter des concerts, ça peut être acheter des jolies éditions limitées, ça peut être acheter un t-shirt à la sortie d'un concert. L'étude néerlandaise démontre que le partage de fichiers dans son ensemble est bénéfique à toute l'économie de la culture. Donc, c'est des questions qu'il faut prendre posément. C'est des questions qu'il faut prendre dans un débat, dans une concertation que l'on va inévitablement, qu'on a déjà commencé à organiser avec l'UFC, avec l'ADAMI, avec les gens de Pour le cinéma, et Catherine Deneuve et Vittoria Abril et Chantal Ackerman et compagnie qui ont signé cette lettre de Juan Branco. On va organiser avec tous ces gens-là une concertation sur comment trouver de nouveaux modes de financement Et c'est certainement pas la peur du gendarme Adopi avec sa moustache et son gros bâton qui va résoudre ces questions-là. Donc il est indispensable de prendre en compte les nouveaux usages de l'ère numérique dans ces calculs et ces réflexions-là, plutôt que les nier, se voiler la face, se boucher les oreilles en faisant « j'entends pas », et en espérant que ça va cesser. Donc c'est juste ça. Je dis pas que cette question n'est pas importante. Au contraire, à titre personnel, je suis très musicophile, très cinéphile, et les arts et la culture sont une part majeure de mon existence et de ce que je suis aujourd'hui. Donc n'allez pas croire une seule seconde que je vous dis « oh, mais on s'en fout, les artistes qui crèvent ». Au contraire, je pense qu'Internet est là pour les sauver, qu'Internet est là pour leur permettre d'être à nouveau au contact avec leur public, sans intermédiaire, sans les mecs qui se sont gavés sur leur dos pendant des années, en se foutant d'eux, en faisant des Star Academy, en s'en piffrant de coke au Festival de Cannes et compagnie, avec leur argent. Donc c'est tout ça qui va dégager, et tout ça, ça sera grâce à Internet. Mais, et c'est là que je reprends le cours de ma pensée, si j'ose dire, ça ne peut marcher que si Internet reste Internet. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est ça l'enjeu fondamental qui dépasse très largement l'Adopi. Et c'est pour ça que j'aimerais vous parler aussi de ces autres projets législatifs qui sont dans les cartons. Il y a la LOPSI 2 qui va sortir bientôt. Alors là aussi, admirer la novlangue. C'est LOPSI, L-O-P-P-S-I. Alors c'est loi d'orientation pour la performance... Alors, je ne sais plus s'ils ont gardé le programmation, parce qu'il me semble que c'est pour la... Enfin, bref, il y a les deux P, programmation, mais ce n'est pas pour, non, on ne prend pas le pour. D'accord. Pour la performance de la sécurité intérieure, dans laquelle on va mettre en place une infrastructure qui permettra de filtrer le contenu sur Internet. Alors, là, on peut en parler aussi pendant des heures. Ça va se faire, évidemment, au nom de la protection des petits-enfants contre la pédopornographie. Et personne ici, comme personne n'est contre les artistes, personne ici peut affirmer qu'il est contre la lutte contre la pédopornographie. Évidemment, c'est un objectif complètement légitime et plus que ça, un objectif prioritaire. Le seul problème, c'est que le filtrage des contenus ne le résout absolument pas. Pas plus que l'Adopi résout la question du financement des artistes à l'ère numérique. Et donc, on est face à tout un tas de dispositions. En réalité, si on voulait lutter contre la pédopornographie, on n'empêcherait pas aux gens de voir les sites, on irait débusquer les salauds qui font ça, et on irait les coller aux newf. Et pour faire ça, on ferait jouer les accords internationaux de coopération entre les services de police et les services de justice. Ces accords existent, il faut les mettre en œuvre. Et il faut du moyen humain et financier pour les brigades qui s'en occupent. Il faut mettre plus de flics sur le coup. Et il faut faire en sorte que ça aille mieux entre les pays. Il faut arrêter les bons hommes, il faut enlever les contenus des serveurs parce que c'est des troubles manifestes à l'ordre public et qu'il y a des dispositions déjà dans la loi pour le faire. On envoie une lettre, le juge français envoie une lettre au juge russe qui va envoyer une lettre à l'hébergeur russe en disant « enlevez ce truc de ce serveur-là ». Et ça, on peut le faire déjà aujourd'hui. Mais il faut avoir le courage politique de dire que ça ne marche pas assez et qu'il faudrait le faire mieux. Et c'est certainement pas le filtrage qui va régler quoi que ce soit. Et donc, on a un ensemble comme ça, un arsenal législatif qui se dessine, qui va utiliser à chaque fois des faux prétextes, des prétextes qu'il est très difficile de contrer sans passer pour un horrible pirato, terro, pédo, nazi, geek velu de 14 ans dans sa chambre en effet, qui comprend pas très bien et à qui on va fripouiller les cheveux en disant « Allez, va dans ta chambre, tu seras privé d'Internet ». Non. En réalité, cet arsenal, c'est autant de briques dans une espèce d'appareil implacable qui viserait à contrôler Internet, parce que le pouvoir politique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, commence à rejoindre ces pouvoirs économiques qui voient dans Internet un danger pour leur situation et pour leur rente. Les politiques sont en train de voir Internet comme un contre-pouvoir et... serait prêt apparemment à en altérer la structure, à en altérer la nature pour asseoir leur pouvoir et pour combattre ce contre-pouvoir démocratique et citoyen. Donc j'ai déjà explosé mon temps pour les questions, je suis désolé, je vais juste conclure très vite fait.
Non, il te reste encore un quart d'heure. Donc.
Ah bon, d'accord, très bien, moi je voyais 7 minutes
en fait,
là-bas.
C'est la fin de ta conférence dans 7 minutes et après
ah,
t'as
très bien,
questions.
Très bien, alors je vais pas du tout me dépêcher de conclure. Et je vais même prendre le temps de boire un peu d'eau. Et
tu bois un coup. Pour au niveau des questions, je pense pour la question que tu trouveras la plus pertinente, tu pourras offrir ce livre qui s'appelle Peer to Peer, comprendre et utiliser. Donc la question que tu trouveras la plus pertinente.
Je peux pas en avoir un, moi ?
On en a eu qu'un.
Oh. Bon, alors, attends, je pensais à une question hyper pertinente.
Et ce sera toi la meilleure. Bravo.
Non, il a l'air bien. Bon, vous me le prêterez alors. Ce qui est en jeu ici, c'est un concept tout bête qu'on appelle la neutralité du réseau. Alors, la neutralité du réseau, ça peut sembler un petit peu barbare comme ça. Et puis la neutralité, c'est quelque chose qui excite pas vraiment les masses, sauf peut-être en Suisse et encore. C'est un principe fondamental qui est même la clé du développement d'Internet qu'on a connu dans ces 20 dernières années. Je vous l'explique en deux mots, c'est vraiment tout bête. C'est de dire que quand de l'information est véhiculée sur Internet, aucune discrimination n'est appliquée en fonction de l'émetteur, du destinataire ou de la nature de cette information. Aucune discrimination. Point. C'est par cette règle toute simple qui trouvait son origine technique dans vraiment la nature même des équipements qui reliaient entre eux les ordinateurs pour donner ce qu'on a appelé ensuite Internet. C'est cette petite caractéristique qui était presque pas prévue au programme qui a fait Internet qu'on connaît aujourd'hui. Qui a fait que deux gus dans un garage, fussent-ils Google ou Yahoo ou Facebook ou Twitter ou ICQ ou je ne sais pas quoi ou Skype, ont pu un jour, à l'autre bout du monde, de leur garage, dire « Hey, les gars, regardez, moi j'ai un truc, là, si ça vous dit. » Et que le monde entier a pu, en 6 mois, en 1 an, s'en saisir et faire avancer l'économie, faire avancer la culture, faire avancer la société. C'est ce principe-là de neutralité du réseau qui nous a permis de faire tout ça. Et là, avec leurs conneries, là, avec leurs Adopi, avec leurs Lopsi, avec certaines dispositions sur le paquet télécom européen dont on n'a pas eu le temps de parler, avec ce qu'ils ont tenté de faire sur le rapport Medina, rapport d'initiative européen également. Avec tout ça, ils sont en train d'être sur le point de nous la bousiller, cette neutralité du réseau. Et au même titre qu'ils croient encore que OpenOffice c'est un firewall qui va protéger contre les pirates, vous imaginez bien qu'arriver à comprendre que tout ce qu'on a bâti repose sur cette neutralité du réseau et qu'y porter atteinte, ce serait un petit peu comme dire « écoutez, le carbone, on arrête. Tiens, H2O, dans l'oxygène, on arrête, en fait. On s'est dit, ouais, O2, c'est très surfait. Alors, on va rajouter là un N, puis on va mettre un petit H ici, puis là, on va mettre un bidule, et puis ouais, ça marchera sans doute bien. Hein. Enfin, en tout cas, pour les vendeurs de N, enfin, pas de N, hein, mais les vendeurs de N qu'on va accrocher à l'O2, ce sera très bien pour leur économie, donc tout le monde va être content. Oups, on n'avait juste pas pensé à ça. Donc, je vous demanderai à tous d'être extrêmement vigilants. C'est pour ça qu'on a fait cette quadrature du net. C'est une sorte de caisse à outils pour vous permettre à tous de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qu'ils font quand ils font n'importe quoi, de comprendre comment ils le font et ultimement d'intervenir pour les aider soit à moins se planter, soit documenter la façon dont ils se plantent, soit expliquer à tout le monde pourquoi c'est grave qu'ils se plantent. Intervenir dans le débat public, remettre le citoyen au cœur du processus législatif. Quelque part, c'est ce que devrait être la politique. Mais la politique avec un grand P, quand les citoyens s'intéressent à la vie de la cité. C'est juste pas plus compliqué que ça. Et on parle pas de la politique avec un petit P, la politico-politocarde politicienne. Des gens qui sont trop occupés à gesticuler pour exister, continuer d'exister et surtout se faire réélire. Mais juste de s'intéresser à ce qui se passe autour de soi et exprimer son opinion. Et c'est un bulletin de vote ?
C'est un ticket de séance.
Ah oui, voilà. Alors il y a le bulletin de vote, il y a aussi le ticket de séance que vous pouvez demander à votre député, n'importe quand, même à d'autres députés que le vôtre. Voilà, celui-là est mauve, mais il y en a des bleus, des jaunes, des verts. Je crois même qu'il y en a des oranges, mais je ne suis pas sûr. Et donc dire à votre député, bonjour, j'aimerais assister à la séance pour voir ce qui se passe. Et juste voir ce qui se passe, éventuellement en parler. Donc, nous, ce qu'on a fait, bon, bah, on est plutôt contents jusqu'à présent. On va essayer de continuer, mais ça ne durera pas éternellement. Et il y a bien un moment où moi, je serai tout vieux, tout ridé, j'aurai tout mal dans le dos et il va falloir que j'arrête. Voilà, il a fallu 3500 ans pour s'apercevoir, grâce à Pi, en fait, grâce à la transcendance de Pi, parce que les chiffres après la virgule de Pi ne s'arrêtant jamais, on ne peut pas calculer avec précision la surface d'un cercle, mais seulement l'approximer. Donc avoir la surface d'un cercle qui coïncide à la surface d'un carré qui, elle, est toujours finie, marche pas. Bon, ben eux, c'est pareil avec la quadrature du net. Mais est-ce qu'il va falloir 3500 ans pour qu'on s'en aperçoive? Et qu'est-ce qui restera d'Internet d'ici là? Si vous utilisez Internet, si vous comprenez Internet, si vous vivez Internet, si vous travaillez Internet, ou que sais-je encore, rendez-vous compte de combien cet outil est précieux. Rendez-vous compte de combien il nous a servi jusqu'à présent, de combien il peut encore plus nous servir à l'avenir. Et bah, tous ensemble, continuons à travailler pour le protéger contre les obscurantismes, contre les effets de manche et contre voilà, toutes ces conneries. Voilà, c'est tout. Prendre des questions.
Oui, j'imagine.
Oui, bonjour. Justement, tu parles que pour la quadrature du cercle, ça a mis 3500 ans, mais est-ce que tu ne penses pas en fait que ce qu'ils sont en train de faire, c'est ni plus ni moins qu'ils vont essayer de faire disparaître Internet. À court terme, perso, je pense qu'ils vont y arriver, mais que ça reprendra une forme encore plus libertaire, encore plus performante que ce qu'il y a maintenant, mais plus tard, et que finalement, c'est juste passager, quoi. Alors, et que de toute façon, ils ne pourront rien y faire.
Alors, c'est pas du tout parce que ta question était pertinente. Bon, objectivement, c'était la plus pertinente jusqu'à présent, mais surtout parce que tu as été le premier à la poser, et que je sais que c'est jamais facile. Tu viens de gagner un formidable livre que tu me prêteras du coup à l'occasion. Je t'invite à le faire passer. Oui et non. Oui, Internet survivra peut-être. Et voilà, je ne vais pas non plus trop m'engager là-dessus. Oui, il changera de forme. Oui, des modes de guérilla numérique vont de plus en plus apparaître. Et comme on le voit avec The Pirate Bay en Suède, où plus on tape dessus, plus il devient fort. Comme une hydre, qui, voilà, on coupe une tête, il y en a 10 qui repoussent. Oui, d'un côté, ça j'y crois. Mais de l'autre... Internet, ça n'existe que parce que c'est Internet pour tous. Et quel pourcentage de la population pourra, en pratique, être sûr que son VPN passe bien dans son proxy, qui lui-même est bien au bout un protocole suffisamment anonymisé pour être sûr que le pare-feu d'OpenOffice, tout ça. Ce que je veux dire, c'est que à pousser les gens dans ce qui s'appelle les darknets, le darknet, le réseau guérilla où l'on se cache, est-ce que l'on va pas créer voilà, un Internet à deux vitesses entre ceux qui savent, qui peuvent, et ceux qui sont pas éduqués? Est-ce qu'on va pas créer une véritable fracture numérique, comme une espèce d'illettrisme des temps modernes, où il ne s'agira pas juste de savoir se servir de Google et d'un logiciel de messagerie, mais littéralement avoir un bac plus 5 en sécurité informatique pour s'en sortir. Je ne suis pas sûr que ce soit une perspective très, très souhaitable, mais comme toi, je garde un optimisme qui me dit qu'au fond, on ne peut que gagner. Voilà. Une autre question là-bas ?
Alors, je ne sais pas si c'est très pertinent.
Sans doute que si.
Mais tu disais que ce serait bien d'être vigilant et de participer donc, au débat, notamment en contactant les députés à la fin de ta conférence. Ce que je trouve très bien, effectivement, mais là, on vient de s'apercevoir que ça a coûté, si j'ai bien compris, ça a coûté cher à un salarié de TF1, hein, ce style de...
Alors, oui. Oui. Et encore une fois, oui et non. Je fais des réponses de Normand aujourd'hui. Ça lui a coûté cher, mais quelque chose me dit que quand il va se recaser, il aura un salaire supérieur à celui qu'il avait chez TF1. Parce que le type, c'est une star maintenant. C'est comme The Pirate Bay. Le jour du verdict, il y a eu 5000 membres en plus au Parti Pirate. Et chaque fois qu'on parle de The Pirate Bay, on dit « Oh, c'est pas bien, il y a un procès !» Leur nombre de connexions, il doit faire pouf, 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 pouf. Donc, oui, c'est pas plus triste que ça pour lui, alors que pour le ministre, pour la ministre, c'est une catastrophe. C'est un véritable Adopigate dont elle ne s'est toujours pas sortie et dont elle ne peut pas se sortir, parce qu'il y a tout dedans. Il y a... Il y a collusion, il y a corruption, il y a bêtise, il y a politique politicienne, il y a un projet de loi nul à chier, il y a une injustice, il y a tout ensemble. C'est une espèce de drame shakespearien à la sauce albanelle. Alors donc voilà, forcément un petit peu moins grandiose. Mais tu vois, je pense que c'est pas une fatalité. En revanche, ce que j'aimerais ajouter et qui est effectivement très inquiétant, c'est que je suis persuadé qu'après ça, il y a des gens qui, avant de poster un commentaire sur un blog ou d'envoyer un mail ou quoi, se sont dit « Ouh là là, ouf, ouais, en fait, je sais pas, je vais peut-être pas le faire. Parce que ça pourrait peut-être barder pour mon cul. » Mais si tu te dis ça, c'est que t'as peur. Et si t'as peur, c'est qu'ils ont gagné. Parce que leur politique, elle ne repose que là-dessus. Elle repose sur la peur. Sur la peur du gendarme, sur la peur de la dopi, sur la peur de la sanction. Et ça ne marche que comme ça. Comme je vous l'ai dit, si vous croyez que partager c'est mal et que multiplier c'est soustraire, si vous avez peur de la sanction, alors la dopi marche. C'est comme, c'était quoi ce film là, c'était Matrix ou quoi, où, voilà, où ça se passe en fait que dans ta tête. Donc c'est vraiment très très important de s'en rappeler et de le dire, qu'il ne faut pas avoir peur de ces gens. Le micro s'il vous plaît, oui. Parce que pour que ça s'entende.
Mais...
Alors. Alors, je vais répéter, allez-y, je vais répéter.
C'est pas vraiment le sujet, mais ce que tu dis, ça fait penser au gars qui est en prison depuis plusieurs mois.
Ça fait penser à Julien Coupa dans sa prison. Oui.
Alors que le dossier serait plus ou moins vide. Et malgré tout, on le garde en prison. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui. Ça fait la peur, effectivement, du gendarme. L'état policier, on le voit quand même grossir beaucoup.
Donc pour ceux qui nous suivent via internet et qui n'auraient pas entendu, ça fait penser à Julien Coupa, la peur du gendarme, l'état policier. Oui, ça fait penser. Ça fait penser. La politique de la peur, oui, c'est une composante qui semble assez essentielle dans la politique actuelle. Oui, ça fait penser un peu à du bouchisme. Oui. Autre question ? Ouais.
Oui, donc pour ceux qui ne le savent pas encore, on a estimé le coût à peu près de ce que la dopi va coûter, c'est à peu près 100 millions d'euros aux frais du contribuable, hein, bien sûr. C'est pas Madame Albanel qui va sortir ça de sa poche. Il y a aussi le mouchard qu'ils voulaient installer. Donc déjà, c'est que sur plateforme Windows.
Donc, on ne sait pas, il n'y a pas encore les spécifications.
Oui, sûrement donc avec avec des sources. Donc loqué, donc on pourra jamais voir dedans, sûrement. Je pense déjà qu'il y aura des hackers qui vont se pencher sur le problème déjà et qui vont faire du gros random.
Ça va être moche.
Juste, il y aura aussi, d'après ce mouchard, en fait, on pense qu'il va surveiller en fait les connexions peer-to-peer. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a des sites qui sont très bien, qui s'appellent RapidShare, Mega Upload. On tape Mega Upload Film up sur Google et en 0,03 secondes, on a une liste de films qui contient à peu près, je sais pas, peut-être 1200 films, récents ou anciens. Pareil pour les séries, pareil pour les musiques. Si vous voulez partager, vous pouvez aller sur ces sites-là, et ça marche très très bien. Personnellement, ce que je fais, moi, c'est du fansub, surtout. On fait surtout, je sais pas pour ceux qui connaissent, les séries qui passent aux États-Unis en ce moment. On les sous-titre et on les envoie. Et donc, ça permet d'avoir les séries en France maintenant, bien que ça soit illégal. On le sait, mais bon, c'est toujours un prix à payer.
C'est parfois, si la loi est mauvaise, il faut changer la loi. Hein. Et oui. D'une façon ou d'une autre, continuez vos fansubs parce que c'est utile. Parce qu'il y a des gens à qui ça plaît, que ça fait vibrer, que c'est... Et que la culture, ça sert à ça, en fait. La culture, ça sert à être partagée. Après, la question des financements, tout ça, elles vont forcément être traitées un jour. Et puis, c'est pas beaucoup plus compliqué que la question de la musique à la radio. Hein. Pendant 9 ans, aux États-Unis, dans les années 20, ils ont tenté d'interdire la diffusion de musique à la radio. La FCC, l'autorité des fréquences, n'autorisait la diffusion qu'à des stations qui s'engageaient à ne pas passer de musique. Parce que, si vous comprenez, ça allait tuer l'industrie du disque. Et ça allait tuer les artistes. Et au bout d'un moment, on s'est aperçu qu'on pourrait pas l'empêcher. qu'en réalité, plus les gens en entendaient, plus ils en achetaient, et qu'on pouvait demander aux radios de payer un petit pourcentage de leurs recettes publicitaires pour financer les artistes et les auteurs. Donc, continuez à faire tout ce que vous êtes en train de faire. Merci pour cette petite information, ce petit tutoriel de méga upload que personnellement, je n'utilise pas. Mais par ce biais-là ou par d'autres, continuez, parce que partager, c'est bien, parce que la culture, c'est bien, parce que Internet, c'est bien. Et encore une fois, voilà, il ne faut pas céder à leurs obscurantismes. Et il y aura toujours des artistes. Il y avait des artistes avant l'industrie du disque et il y aura des artistes après l'industrie du disque. Et c'est ensemble, le public avec les artistes, que l'on arrivera à inventer les solutions.
On va juste prendre une dernière question très rapidement. Et puis après, vous pourrez continuer les discussions à l'extérieur.
Oui, ça va. Hein.
Il y a quand même un point qui concerne les créateurs sur la loi création et Internet. C'est le fameux label offre légale. Le fameux label comme quoi ce qu'on diffuse est légal. Et c'est justement, il n'y a pas que la neutralité d'Internet qui est menacée, c'est aussi la neutralité de l'art en général. Donc à présent, pour qu'un art soit jugé légal ou diffusable, il faut qu'il soit agréé par un gouvernement. Donc le fameux sceau de Christine Albanais.
Mais alors, c'est, oui, mais je vais encore plus me faire l'avocat du diable que d'habitude. Non, blague à part, ça ne concerne pas les artistes. Les offres légales, ça concerne les producteurs et les fournisseurs de services en ligne, d'accès à des œuvres. Mais pas pour autant la rémunération des artistes. Regarde Deezer. Ah oui, voilà. Ah, c'est pour dire que c'est fini. C'est une menace. Mais même ça, ça ne concerne pas les artistes et les créateurs. Tout ça est une arnaque, une véritable fumisterie. Ouais, ouais.
Donc, je crois que s'il y a encore des questions, vous pouvez aller dehors et continuer ce débat. Merci à Jérémy pour tout ce que
merci
tu fais.
Tous.
Alors la prochaine conférence